32 minutes, vous êtes bien à l'écoute de Radio Saint-Louis et de l'émission Entretien, une émission proposée par Michel avec le concours de Nicolas à la technique et au programme musical. Aujourd'hui, notre invité pour cette émission spéciale, Monseigneur Michel Méranville, archevêque de la Martinique et patron de Radio Saint-Louis aussi. Monseigneur, bonjour.
Bonjour Michel et bonjour aussi à tous les auditeurs, tous les amis, tous ceux qui sont à l'écoute.
Alors Monseigneur, si nous vous avons invité aujourd'hui, vous avez d'ailleurs souhaité cet entretien, c'est parce que depuis quelques jours, un grand émoi s'est emparé de notre église diocésaine suite à la communication par les médias extérieurs de lettres qui au départ étaient destinées à rester confidentielles, qui ont été détournées et publiées sur la place publique et qui mettent en question un de vos prêtres, et ce serait donc d'autres prêtres qui auraient écrit ces lettres, et même un pseudo-prêtre X que vous connaissez peut-être, un jeune prêtre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Bien, je crois qu'il faut être vrai, parce que certains s'amusent depuis longtemps à masquer la vérité. Alors, il s'agit de lettres écrites par quatre prêtres que je ne vais pas nommer. Leurs noms circulent déjà, on les connaît. Des lettres envoyées au pape et aux nonces apostoliques. Et ces lettres auraient été ramassées en un seul courrier qui circule, que beaucoup de personnes ont reçu à la Martinique et aussi en dehors de la Martinique. Et lettre signée par les prêtres, il y a une lettre, effectivement, qui est prétendument écrite par un jeune prêtre qui, par souci de vérité, cette vérité à laquelle ont droit tous les fidèles, etc., n'a pas voulu dire son nom par peur de représailles. Or, on sent très bien que ce n'est pas vrai. Il y a dans cette lettre des expressions qu'un jeune prêtre n'utiliserait jamais. Et puis aussi, le jeune prêtre, si c'était vraiment un jeune prêtre, il n'y en a pas des légions ici, donc il ne se brûlerait pas comme ça. Donc tout cela, c'est absolument un montage. Mais qui a transmis ce montage ? J'ai tout de suite fait aussi une enquête. J'ai appelé les quatre prêtres signataires et je leur ai demandé instamment de me dire la vérité. Personne, bien sûr, n'a dévoilé qui que ce soit. Mais c'est quand même un cinquième, le père Alain Rancé, qui m'a dit que c'était lui qui avait transmis ce dossier à monsieur Chanteur, Guillaume Chanteur. Guillaume Chanteur, c'est quelqu'un de bien connu, qui harcèle l'Église catholique depuis des temps très importants, depuis 5 ou 6 ans, qui m'en veut personnellement, qui écrit à droite et à gauche, qui envoie des CD, qui menace, qui fait toutes sortes de choses, parce qu'il voudrait, soi-disant, nettoyer cette Église, purifier cette Église, mais il l'a démolie. Et le père Rancé m'a ajouté, en me donnant son nom, je me suis trompé sur lui, mais c'est un vrai suppôt de Satan. Bien, alors ça je le dis carrément, puisque les noms circulent, ça fait du temps que je désirais dévoiler tout cela. Mais je ne l'ai pas fait par égard pour les personnes. Mais, voilà.
Alors, dans ce monsieur chanteur, monseigneur, est-ce qu'il n'a pas été aussi aumônier catholique de prison ?
Il a été aumônier bénévole. Et aumônier c'est bénévole. Parce que je l'ai radié justement de ce poste qu'il m'en veut jusqu'à ce jour, à la suite d'une agression qu'il avait eue contre un prêtre qu'il avait jeté par terre, il lui avait déchiré son aube, etc. Donc, mais je ne vais pas entrer dans les détails parce que dans cette émission-là, je ne veux pas en rentrer dans les anecdotes. Mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses que nous aussi, et le moment viendra où il y aura un grand règlement de compte et une grande lessive sera faite. Parce que ce monsieur n'est pas seul, il sait à peine écrire, mais les courriers que nous recevons, ce n'est pas lui qui les écrit. Il y a derrière lui tout un staff, et il y a aussi des moyens financiers. Parce que pour imprimer des CD, les envoyer à tous les évêques de France, qui sont au moins 110, les envoyant dehors de l'île. Donc c'est toute une entreprise qui a pour but de démolir notre église. Alors ce monsieur se fait passer pour un prophète, il inspire la peur, alors qu'il a été autrefois quimboiseur, il mettait du sel dans les cimetières, enfin bref, toutes sortes de choses. Et il tient certaines personnes parce que c'est aussi un fouille-merde. Et il fait du chantage, il porte bien son nom. Et alors, certaines personnes ont peur. Et voilà comment les choses vont. Alors, cette entreprise, c'est vrai que beaucoup de personnes sont attristées, ou regrettent, pleurent. Et c'est vrai, c'est dommage de voir des prêtres trempés dans une affaire comme ça. Mais qu'est-ce qui était le motif de ces lettres? Le motif, c'était de stopper la candidature du père Renard, mon vicaire général. Alors, il y a une double erreur. Il n'y a pas de candidature. On ne pose pas sa candidature pour devenir évêque. C'est Rome qui fait des consultations, qui demande à des personnes qui seraient susceptibles de succéder à Mgr Méranville. Et lorsque Rome reçoit ces courriers, ce sont des courriers qui sont écrits dans le secret, qui doivent respecter une confidentialité. Et Rome peut demander un surcroît d'informations en disant « voilà, bon, exprimez-vous ». Mais tout cela demeure secret, un petit peu comme ça se passe dans toutes les administrations. On n'étale pas sur la place publique ce que l'on sait de tel employé. Donc il y a des enquêtes qui sont faites de cette manière-là. Pas pour être sur la place publique, mais pour informer le Saint-Siège. Or, le père Renard n'a pas posé sa candidature. Et rien non plus ne dit que sa nomination était imminente, parce que ce n'est pas du tout de cette manière-là que Rome procède. Mais c'était pour lui barrer la route. Alors, pour lui barrer la route, on raconte n'importe quoi. Et là, je déballe ce soir, on a médiatisé cette information. On en a fait le cas Renard, alors que le père Renard n'a rien fait de mal. Et le père Renard étant absent, c'est moi qui l'ai envoyé à Paris, à la session des personnels de l'officialité. Il est parti vendredi 31 pour l'Institut catholique de Paris.
Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que l'officialité, Monseigneur ?
L'officialité, c'est justement le tribunal de l'Église chargé des cas litigieux de mariage et puis d'autres. En fait, toutes les applications du code du droit ecclésiastique, c'est le tribunal qui s'en occupe. Donc il y avait une session de formation. Le père Renard est le vice-officiel de ce tribunal ici à la Martinique. Mais tout de suite, la Martinique première a annoncé Rome a mis à l'écart la candidature du père Renard et lui a demandé de se tenir à l'extérieur du diocèse. Enfin, ce sont des informations mensongères. Ensuite, tendancieuse. Moi, j'ai cru, en regardant le journal du soir du 13, que c'était un gangster qu'on venait d'arrêter, ou bien un pédophile célèbre, un prédateur. Alors, les phrases prises dans le courrier qui a été remis à Martinique Première étaient présentées sur grand écran et lues comme si, bon, on pensait pour une fois aux sourds, aux malentendants, pour qu'ils comprennent bien. Et tout était tendancieux. Le père aurait, bon, on a étalé tous ses défauts, et il aurait une propension, enfin une inclination vers les jeunes garçons pour suggérer quelques idées immorales ou même pédophiles. Alors que il y a aussi la citation de deux jeunes dans le fameux dossier qui circule. Ces deux jeunes, ils ont quel âge, vous savez? 29 ans et 39 ans. Hein? Alors on reste jeune très longtemps dans ce contexte-là. Enfin, je dis cela parce que il n'y a rien contre le père Renard. Alors bien sûr, il a un caractère, tout le monde a le sien, Mais de là, c'est ignoble à descendre comme cela un prêtre qui, pendant son absence, n'ayant pas les moyens de se défendre, ça, lorsqu'on est en chrétien, ça fait mal. Et c'est, je crois, l'occasion pour nous tous, non pas de jeter l'anathème à ces prêtres qui ont agi comme ça, dans un moment d'égarement, ou peut-être contaminés parce que c'est tous ces jours-ci, c'est la politique, c'est les municipales, bientôt, je ne sais quoi. Mais on a oublié que dans l'Église, ce n'est pas ça. L'Église, ce n'est pas une ONG, ce n'est pas une association, ce n'est pas un club, c'est le corps du Christ. Et cette Église, même si elle est constituée de pauvres pécheurs, nous en donnons l'exemple, eh bien, le Christ est là, et l'Esprit Saint aussi. Et avant de prendre des moyens humains, et surtout lorsqu'ils sont mauvais, ces moyens, pour barrer la route à quelqu'un, ça, le Christ ne l'a jamais fait. Et on devrait se tourner vers lui avec confiance. C'est lui, d'ailleurs, qui désignera mon successeur pour cette Église. Ben, j'ai parlé un peu trop, mais...
Non, Monseigneur, les choses sont claires comme ça, mais j'aimerais qu'on revienne. Vous avez parlé à un certain moment de consultation. Donc, il y a un collège des consulteurs, normalement, dans un diocèse, et donc, quand il y a une enquête qui est faite, c'est ce qui se déroule en ce moment, depuis que vous avez remis votre lettre de démission au Saint-Père, à l'époque c'était Benoît XVI, à votre 75e anniversaire. Depuis, il y a donc la procédure officielle, qui est celle de la procédure de nomination des évêques par la congrégation des évêques, c'est bien ça, qui est respecté, et donc des consultations peuvent avoir lieu. Il y a des prêtres dans notre diocèse, ou des laïcs, vous l'avez dit, qui ont été consultés. Mais ça n'a rien à voir avec cette lettre-là.
Ah non, ça n'a rien à voir avec cette lettre-là. Mais ce que je veux dire, c'est que les prêtres avaient le droit d'écrire, mais ils s'adressaient au pape, oui, et au nonce. Et ce n'était pas pour mettre ça sur la place publique. Bon, mais... je ne sais, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, l'intéressé donnera peut-être davantage de précision, mais c'était pour ainsi dire, faire barrage, brûler l'herbe devant le père Renard, qui était supposé être le successeur immédiat, enfin, je ne sais qui avait fait courir ce bruit-là.
Voilà, parce que normalement, à la fin de la procédure, quelle que soit la nomination, il y a une liste de 3 noms, c'est classique, qui est proposée. Mais ces noms restent secrets, en principe.
En principe, tout cela, même l'intéressé est avisé au dernier moment. Et l'intéressé peut encore refuser. Donc, il n'y a pas... Rome ne proclame pas, voilà, j'ai choisi telle personne pour être évêque. Et alors, donc, c'était absolument inutile, tout ce bruit-là, et puis, malheureusement, préjudiciable à notre Église. Et là, je pense que nous sommes pas bien loin du carême. C'est une invitation à nous tous, à nous ressaisir et à nous tourner vers le Christ. Saint Augustin disait « Ô Félix culpa ». Il y a parfois des erreurs, des fautes qui nous montrent combien nous sommes impuissants, comment nous sommes petits, comment nous sommes misérables sans Dieu, et nous invite à nous tourner vers lui. Nous croyons en sa miséricorde, et c'est cela qui est important. On commet tous des erreurs, surtout lorsqu'on est entraîné, lorsque 2, 3 se mettent ensemble, non pas pour une bonne action et pour une mauvaise, eh bien, qu'ils aient quand même la possibilité de se ressaisir, et que nos prêtres nous donnent cet exemple-là aussi, qu'ils reconnaissent publiquement qu'ils ont mal agi, pour pouvoir entraîner les fidèles avec eux à un changement de comportement. Alors, c'est vrai qu'il y aura des décisions à prendre, il y a des sanctions à prendre après des faits comme ça, mais j'y penserai avec mon conseil. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important, ce ne sont pas les sanctions qui importent, c'est la possibilité de conversion, de reconnaître qu'on a mal fait, et puis aussi de désavouer ces gens qui prétendent faire une autre église, et qui se disent envoyés, qui ont un feu, qui sont prophètes, etc. Alors il faut qu'on se mette debout, il faut que les chrétiens protestent, et au lieu de couver ces gens-là, d'avoir peur d'eux, les dénoncer, les envoyer promener, et puis leur dire de s'occuper d'une autre manière, de faire le bien, d'essayer de faire le bien avec tout cet argent dont ils disposent pour faire du mal à cette Église qu'ils disent aimer. Et ce n'est pas vrai, parce qu'ils divisent, ils salissent On n'a jamais vu Jésus-Christ salir les autres. On n'a jamais vu Jésus-Christ condamner qui que ce soit. Alors, on veut savoir de quel côté sont ces personnes-là. Il faut voir leurs œuvres. Elles sont du côté du diable, diabolos. Et lorsque le père Rancière a dit que ce monsieur était le suppôt de Satan, j'ai dit, eh ben, tant mieux, tu aurais dû t'en apercevoir un peu plus tôt.
Parce que c'est là tout le problème. Donc quand on prend la décision comme ça de communiquer dans le public des informations qui sont destinées à rester secrètes, eh bien on va faire du tort à tout le corps finalement. Et ce monsieur, comme vous dites, qui se prétend défenseur de l'Église, eh bien en réalité, il en est le fossoyeur, c'est bien ça.
Heureusement que non, parce que il risque d'être enterré bien plus tôt qu'il ne le croit, hein. C'est pas une malédiction que je lance sur lui, mais il n'a qu'à bien se tenir. En tout cas, il ne sera pas fossoyeur de notre Église. Parce que cette Église, elle est, malgré tout, elle est sainte, Jésus-Christ, elle habite.
Et c'est lui la tête.
Il aura raison des forces du mal.
Voilà. Eh bien, Monseigneur, on va marquer une pause musicale et puis on reviendra peut-être sur tel ou tel point que vous souhaitez redévelopper. J'ai une question à vous poser de la part de nos auditeurs et puis donc on conclura ensemble cette émission spéciale.
Merci.